Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Coach Courbis, avec Kevin Diaz, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'intégrale Coupe du Monde, l'after intégrale Coupe du Monde sur RMC, 21h04 à Paris, 23h04 à Doha. On est ensemble jusqu'à 22h, la suite de l'after avec Gilbert Brébois, Daniel Riolo, Stéphane Guy. À partir de 22h, il sera question également d'Adrien Rabiot et de son développement personnel, son évolution en tant que joueur et en tant qu'homme, bien sûr. Vous êtes-il totalement convaincu? C'est un des débats de la suite de l'after. Et puis la libre antenne tout à l'heure à partir de minuit, comme tous les soirs. Vous adorez, on le sait, de plus en plus nombreux à nous écouter et surtout à écouter Thibaut Jeangrande et Nico Villas qui est avec nous. Salut Nico Villas.
Hola viva.
Nico, hey Nico. Le Portugal. Salut Nico. Désormais Salut, dans l'after intégrale Coupe du Monde. Alors, lendemain d'une double émotion portugaise, le carton contre la Suisse et donc Cristiano Ronaldo remplaçant. Nico, comment on a vécu, commenté la situation de Ronaldo au Portugal, bon, hier soir et surtout aujourd'hui dans les médias portugais?
Bah, déjà, c'était stupeur hier parce qu'on en parlait hier en avant-match et même en analyse du match. Il n'y avait pas une compo probable dans l'ensemble de la presse portugaise, y compris les médias radio-télé qui mettaient Cristiano Ronaldo sur le banc. C'est-à-dire que personne n'imaginait, malgré la remontrance la veille de Fernando Santos, ou du moins les points sur les i, qu'il allait mettre Cristiano Ronaldo sur le banc. Donc déjà, ça a été une énorme surprise. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit dans la presse d'une façon générale, contrairement d'ailleurs à beaucoup de médias étrangers qui sont focalisés sur les réactions de Cristiano Ronaldo, alors d'ailleurs des choses souvent très fake et très exagérées, où soi-disant il a pas célébré le premier but alors qu'il l'avait célébré. On parle beaucoup de Gonçalo Ramos, parce que c'est devenu le troisième plus jeune joueur à inscrire un triplé en Coupe du Monde. C'est devenu le plus jeune buteur du Portugal dans l'histoire du pays en Coupe du Monde aussi. Et surtout on parle de ce carton, parce que 6-1 dans un match élimination directe en Coupe du Monde, c'est la deuxième plus large victoire du Portugal en Coupe du Monde après le 7-0 contre la Corée du Nord en 2010. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de ce match-là. Ils ont fait une forte impression hier. Et puis on a salué aussi, enfin, ou du moins on a souligné l'audace de Fernando Santos sur le match d'hier, du fait de laisser Cristiano, mais pas que. Il y avait aussi João Cancelo qui était sur le banc, Cancelo. Il est très audacieux depuis le début de cette Coupe du Monde, donc très à contre-sens en rapport avec ce qu'il faisait précédemment, où on disait qu'il était conservateur et résultatiste.
T'as raison. Je me rappelle le toi avant que je parte ici au Qatar. Tu m'as dit on va pas y arriver avec Fernando Santos, ça va être épouvantable.
Il me bluffe.
De toute façon, tout est surprenant dans cette équipe du Portugal. Tout à l'heure, Julien Cazard m'a envoyé un tir assez marrant après ce que je disais hier, Nico, avec toi et d'ailleurs avec Nico aussi Villas par message avant le match. C'est vrai que quand t'es passionné, quand t'aimes cette équipe, tu te dis mais comment on va faire. C'est humain de se dire mais comment on va faire sans Cristiano Ronaldo.
Oui, la passion est passée. T'as raison.
Comment on va faire sans Cristiano Ronaldo? Moi, j'ai eu mes cousins avant le match, on était tous d'accord, on disait mais c'est pas possible, on peut pas faire sans lui, il faut le mettre parce qu'il nous a toujours sorti de situation, etc. Même si on aime beaucoup Gonçalo Ramos, qui a bien sûr des qualités indéniables et qui le montre depuis le début de saison mais personne pouvait prévoir justement un triplé de Gonçalo Ramos, personne pouvait prévoir que Guerrero allait être excellent, allait même marquer un but.
Personne ne pouvait prévoir que la Suisse soit aussi faible.
Ouais, personne ne pouvait prévoir que la Suisse soit aussi déboutonnée, même si je pense que s'ils ont été faibles, c'est aussi beaucoup
malade,
par le Portugal.
Nico, j'ai pas reconnu cette équipe qui est toujours emmerdante à battre.
Tout à fait. Je pense que c'est aussi grâce au Portugal, quand même.
Justement, la parole est à toi. Tu vas nous dire pourquoi il est impossible, selon toi, que Ronaldo débute contre le Maroc samedi à 16h. Jingle, à Vitran chez Coach Courbis.
Ti rendi conto se tu posi una questione a un supporter italiano che ha da qualche anno, chi è stato più forte? Buffon, Rivera o Cannavaro? Ciao, grazie ancora e congratulations per la sua carriera.
Oh, je vais essayer de m'améliorer.
Vivement, t'en fasses une en portugais, Roland.
Non, mais justement, je vais essayer de m'améliorer parce que une de mes phrases préférées et un de mes repères aussi, c'est qu'on progresse à tout âge. Eh bien, je pense que notre ami Santos est en train tout simplement de progresser, est en train de réfléchir. Il a, sur ces dernières semaines et ces derniers mois, des bons souvenirs et des moins bons souvenirs. Il y a des matchs où il a été inspiré dans ses choix, d'autres où il ne l'a pas été. Et là, maintenant, il va falloir qu'il soit inspiré jusqu'à la fin si on peut penser que le Portugal a une chance de gagner cette Coupe du Monde, et cette chance, ils l'ont. Donc, en ce qui concerne, après, les choix d'aujourd'hui, mais les amis, on aura l'occasion d'en reparler, et les choses, ils s'enregistrent. Je m'imagine pas une seconde, et même une demi-seconde, que Ronaldo puisse démarrer le prochain match. Ronaldo ne démarrera pas le prochain match, il rentrera en cours de match, et vous me dites les arguments que vous avez pour penser que Santos puisse, après ce match contre la Suisse, titulariser Ronaldo, eh bien, je ne vois pas. Et moi aussi, là, à ce moment-là, je vous remercierai parce que je progresserai.
Non, mais de toute façon.
Je ne sais pas, mais vas-y, Kevin, après.
De toute façon, coach, je pense, hein, encore une fois, il nous a surpris hier, Fernando Santos, et ça s'est passé de façon excellente pour la Slessan. Mais. Je pense pas que Fernando Santos va remettre Cristiano Ronaldo non plus. Quand tu vois et encore une fois, j'en ai parlé beaucoup aujourd'hui, mais c'est complètement dingue, coach, de voir avec. Alors on peut me dire les Suisses, il y en avait qui étaient malades. Je sais pas exactement ce qui s'est passé de leur côté, mais
il y avait un virus dans leur hôtel.
Marquer 6 buts face à la Suisse. Avec des beaux buts, avec un Jean-Félix complètement libéré, avec un Ramos qui a quasiment marqué 3 sur ses 4 occasions, etc.
Avec des changements intéressants.
Avec des changements intéressants.
Je te rajouterai un truc, Kevin, c'est que notre ami Santos, il est quand même au courant de ce qui se passe dans certains pourcentages. Il est au courant quand même qu'il y a 70% de Portugais qui préfèrent que Ronaldo.
Non, ça, c'est pas vraiment comme ça.
C'est comment?
C'est une consultation, c'est pas un sondage.
C'est-à-dire d'un site, journal, voilà.
Un journal a fait on appelle ça un sondage sur Internet. Les gens ont voté, on sait pas combien de gens qui y sont. C'est pas représentatif.
Non, mais
c'est pas parce que un site Internet
a lancé du Super Moscato Show, en fait.
Voilà, exactement.
Tu penses que si dans ce même sondage, on explique à Santos qu'il y a 70% de ce sondage-là pour Ronaldo, il le met sur le banc.
Il s'encaille complètement, Roland. Alors, je vais dire, Santos, alors déjà, d'une, pour répondre à ta question, Nico, l'imprévisibilité de Santos, on l'a vu hier, c'est ce que disait Kevin, elle est imprévisible, hein, elle porte bien son nom. C'est-à-dire qu'il est capable de mettre Ronaldo contre le Maroc sans que personne s'y attende. Et la deuxième chose,
oui, parce que il avait
quand même mis Rui Patricio, le gardien titulaire indiscutable depuis quasiment 10 ans, sur le banc pour les barrages, pour un jeune 19 ans qui était excellent.
Et la deuxième chose, c'est connaissant Santos, à l'âge qu'il a, avec l'expérience qu'il a, on en parlait déjà un petit peu hier, au moment où il avait mis Ronaldo sur le banc, crois-moi que demain, même un sondage où ils interrogent un par un les 11 millions de Portugais, mais il s'en fout complet, le gars. Si lui, il estime...
Je peux t'adorer, tu sais que je t'adore, et ne pas être d'accord avec toi.
Ah non, mais on est d'accord,
je te crois pas une seconde.
Et ben on s'aimera toujours.
Mais après, attention, parce que ce sondage, alors moi, bien sûr, j'ai pas parlé avec 70% de la population portugaise, mais honnêtement,
bien que t'habites dans le 9-4, mais...
C'est vrai, c'est pas faux. Mais on a quand même parlé avec Nico, je parlais avec pas mal de monde, honnêtement. Personne n'aurait mis Ronaldo hier sur le banc, coach. Personne. Et lui, il l'a fait quand même.
On est en train, vous êtes en train de me questionner après ce qui vient de se passer.
On l'a dit avant, nous.
Non, mais là, la question, alors j'ai mal compris la question, c'est
à
ce qui concerne le match hier. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer contre le Maroc? Eh bien, je ne vois pas une seconde.
Non, mais ça, c'est sûr.
Ronaldo démarrer comme titulaire.
Non, moi, la chose que je te dis, c'est que la logique veut que, et moi, je vais dans ton sens, si tu veux, vu ce qui s'est passé là. Enfin, il y a un mec qui claque un triplé. Ou alors, il se dit. Alors, d'ailleurs, puisque tout à l'heure, je sais qu'on va parler un peu de Gonçalo Ramos, qui lui se considère comme étant un deuxième attaquant, il se dit, on va mettre les deux.
Il s'en fout de tout, ton Santos. Ok. Donc il s'en fout même d'être éliminé. Imaginons Santos, le mec, il s'en fout de tout. Il s'en fout de tous les pourcentages. Il s'en fout de toutes les stats, que ce soit fait sur un journal ou que ce soit fait dans la population. On vient de battre la Suisse 6-1 dans un système où Ronaldo ne démarre pas et où on le remplace en cours de match, ce qui en plus peut donner des idées parce que Ronaldo ne le tue pas complètement. Peut-être qu'en demi-finale, c'est lui qui va vous mettre une tête là avec une détente. Imaginons Santos démarrer avec Ronaldo titulaire et se faire éliminer par le Maroc, eh ben il s'en foutra aussi. Ouais, ben il s'en fout.
Alors, je te dis pas que ce que ton raisonnement n'est pas bon, puisque j'ai le même que toi. Je te dis, la seule chose que je te dis, c'est que Santos, et on l'a vu hier, il est imprévisible. C'est le seul truc que je te dis.
Mais là, moi, il serait pas imprévisible, il serait quand.
Voilà. Bah, alors, si tu veux, mais si tu... faut que tu viennes à la libre antenne, Roland.
Écoute, il se répète, coach. On peut le dire aussi. Pedro est avec nous, 32 supporter portugais. Salut, Pedro.
Salut, salut à tous. Merci de m'accueillir sur le.
Salut,
sur le plateau.
C'est un plaisir.
Salut, Pedro. Salut, Pedro. Moi, Pedro, Pac, Max Stage, Méo.
Je ne te demande pas, Pedro.
Congratulations, Pedro.
J'espère juste que Nicolas se souvient de moi.
Quoi ? En italien, comment on dit, coach ?
Ah ben, attends, tu m'as chambré.
Non, en portugais, coach. Parabéns, parabéns.
En début de ce reportage, tu m'as chambré.
C'est reportage.
Je veux quand même me servir de ce que tu m'as fait écouter.
Pedro, je te demande pas ce que va faire Fernando Santos, qu'on le sait pas, même si on imagine, comme le dit coach.
On peut lui demander son avis quand même.
Alors, oui, je vais lui demander si lui, il veut que Ronaldo débute samedi 16h, en quart de finale de ce mondial face au Maroc.
Alors, déjà, première chose, j'ai été, comme beaucoup de supporters portugais et de portugais, très surpris à la sortie de la compo hier soir. J'ai passé mon temps à passer des coups de fil en disant c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait Fernando Santos.
On est d'accord, c'est, Pedro, merci.
C'est scandaleux. Je suis un peu surpris. Moi, j'ai plein d'amis portugais qui me disent oui, mais Ronaldo il avance beaucoup moins qu'avant, il a 37
ouais,
ans,
mais,
il oui, manque du temps de jeu et de rythme.
Mais Nico,
c'est incroyable, ils sont plus libérés sans lui.
Pedro,
et là, j'apprends ce soir,
Pedro,
on voulait tous Ronaldo hier au coup d'envoi.
Pedro, rassure-nous, t'étais comme nous, t'as râlé. T'as dit, mais pourquoi il ne met pas, on va se faire éliminer.
Aujourd'hui, on parle de Ronaldo, mais on pourrait très bien parler de. Du cas Juan Cancelo.
Mais je suis complètement d'accord, je l'ai dit hier aussi.
Et en fait, la chose, c'est qu'aujourd'hui, Fernando Santos, il est totalement imprévisible. On l'a vu en 2016, c'est pareil, il faisait des choix où forcément les gens n'étaient pas d'accord.
Non, là, il n'était pas imprévisible, à ce moment-là, il était incompétent.
Alors, je suis pas forcément d'accord. L'important, c'est de remporter. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, Fernando Santos, il a fermé de bouche à énormément de personnes. C'est-à-dire que je pense que personne n'était satisfait de la composition. Moi, personnellement, Ronaldo sur le banc, Juan Cancelo sur le banc, Otavio sur le terrain, ça ne me convenait pas.
Mais vous êtes d'accord sur une chose, quand même, excuse-moi de te couper, c'est que l'effectif du Portugal peut permettre quand même à un sélectionneur ou à un entraîneur de ressortir quand même une équipe redoutable de cet effectif, non ?
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord.
Bon, on l'a vu hier, d'ailleurs.
Bien sûr. Et là où Fernando Santos est encore plus imprévisible, c'est que moi, je serais d'avis à ce que la composition d'hier soit la même samedi prochain face au Maroc, mais il est tout à fait capable de mettre Ronaldo titulaire et Ramos sur le banc.
Mais Roland, c'est ce qu'on dit. On te dit que nous, on partage ton avis. Si tu nous demandes, nous, quelle compo on fait, on ira, je pense, pour beaucoup dans ton sens, mais qu'on connaît Santos.
Je m'en fous que vous partagiez mon avis. Vous êtes sympa, mais là, c'est moi que je m'en fous. Je suis Santos sur cette question-là. Je m'en fous. Donc, ce que je te dis, moi, et vous m'enregistrez ce soir, Ronaldo sera pas titulaire contre le Maroc.
Combien la cote, coach, tu penses ?
Ce que vous voulez.
T'en vois combien, coach ? On parie ?
Hein ? Non,
on parie ?
Non, non.
Ben, on parie.
On parie pas.
Pedro. Parie après l'émission, on fait même par écrit.
Merci, Pedro. On a fait le 32-16. Tu peux nous rappeler avant le duel. Samedi, 16h sera sur RMC face au Maroc. Dans un instant, on va continuer sur le Portugal. Nico Villas, tu restes avec nous. Tu vas nous présenter, nous dresser le portrait, nous peindre le portrait de Gonçalo Ramos, celui qui affole tous les supporters portugais. Et pas uniquement certains gros clubs européens. Il a une clause démentielle. Il n'a que 21 ans. Il a mis un triplé, délivré une passe décisive hier. Qui est Gonçalo Ramos dans un instant dans l'after intégral Coupe du Monde sur RMC. Il est 21h17 à Paris, 23h17 à Doha. On revient dans quelques secondes, là tout de suite.
RMC, after foot, intégral Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Coach Courbis, Kevin Diaz, vous écoutez RMC, l'after intégral Coupe du Monde, comme tous les soirs. Il est 21h19 à Paris, 23h19 ici à Doha, au Qatar, en direct du studio RMC. Nico Villas est toujours avec nous. On termine sur le Portugal tout à l'heure également. En fin de ces deux premières heures d'after, une question qu'on va vous poser. Quelle est votre révélation de ce mondial ? Kevin a le sien, coach a le sien aussi. Vous nous appelez en 32-16 pour participer à cette question. Et puis on parlera d'Eden Hazard dans quelques minutes également, qui a décidé d'arrêter, de mettre un terme à sa carrière internationale. La aussi la question, il peut nous appeler, supporter belge ou français d'ailleurs, la carrière de Eden Hazard, génie ou gâchis. On sera avec un confrère belge qui nous éclairera dans quelques minutes. Nico, Gonçalo Ramos, on en a parlé bien sûr en début de saison en Ligue des Champions, le PSG a affronté Benfica. Rappelle-nous quand même qui est-il, quel âge a-t-il? Il a 21 ans, il a mis un triplé hier, il est sur une courbe ascendante depuis le début de la saison.
Alors, il est le meilleur buteur, l'actuel meilleur buteur du championnat portugais, l'actuel meilleur buteur d'ailleurs du Benfica cette saison, toute compétition confondue. Il a 21 ans. Tout à l'heure, je le disais, c'est le plus jeune buteur de l'histoire du Portugal en Coupe du Monde, le troisième plus jeune à inscrire un triplé en Coupe du Monde. Il a une clause libératoire à 120 millions d'euros. Vous savez que les clubs portugais aiment bien mettre des clauses souvent très élevées. Alors lui, il est né dans le sud du Portugal, en Algarve, à Olhão. Et très vite, hein, il avait 5 ans, il avait fait un tournoi au Seychelles, au centre d'entraînement du Benfica avec le club où il était. Il avait été repéré. À 10 ans, il a signé dans une filiale du Benfica du sud du Portugal en Algarve. À 13 ans, il rejoignait le Seychelles, le centre de formation du Benfica. Et là, il a gravi. Il a quasiment toujours joué surclassé. Il a une histoire assez intéressante. Tout à l'heure, je disais, c'est pas un pur neuf, hein, Gonçalo Ramos. Hein. Alors, quand on voit le match d'hier et ses stats cette saison, on se dit c'est
8-10,
fou. Alors, à la base, c'est un milieu de terrain qui jouait 8-10. Après, il a commencé à jouer milieu offensif. Et il s'est passé un truc en 2019, l'année où le Benfica, l'une des années où le Benfica a atteint la finale de la Youth League. C'est que, première journée de la Youth League, donc la Ligue des Champions des jeunes, des U19, le Benfica n'a pas d'attaquant. Ils sont soit blessés, soit suspendus. Et son entraîneur Renato Paiva, qui vient de signer d'ailleurs à Bahia au Brésil hier, là, il décide de l'aligner attaquant. Et là, il marque un premier but. Et derrière, il enquille. C'est-à-dire, il commence à enfiler but sur but. Jorge Jesus, qui est l'entraîneur de l'équipe première, l'intègre à l'équipe principale. Il le lance au fur et à mesure. Et puis, Gonçalo Ramos finit par exploser. Sauf que, il y a d'abord Seferovic qui est là, qui marche sur l'eau à l'époque, le Suisse. Puis il y a Darwin Núñez, l'actuel de Liverpool, qui met but sur but la saison dernière. Et là, cette saison, bah, c'est lui finalement qui, un peu par la force des choses, devient le numéro 9 du Benfica. Il y a Jorge Maciel, qui est l'actuel adjoint de Paulo Fonseca à Lille, qui l'a entraîné avec les U19 au Benfica, qui dit une chose que je trouve assez intéressante. Il dit, sans le ballon, il pense comme un milieu de terrain, et quand il a le ballon, il pense comme un attaquant. C'est-à-dire qu'il dit, lui, le fait qu'il ait débuté comme milieu et qu'il finalement très tard soit devenu un neuf, fait de lui un attaquant hyper complet, alors qu'il de milieu off est devenu deuxième attaquant et maintenant devient numéro 9. Voilà le joueur que vous avez, qu'on a vu hier, quoi.
D'un faux numéro 9, ça devient un vrai numéro 9.
Voilà.
Ce qui veut dire aussi qu'il a sûrement une grosse marge de progression en tant que numéro 9. C'est un poste qu'il est en train d'apprendre. Tu disais, en U19, il joue encore 8-10, Gonçalo Ramos. D'ailleurs, Nico, il est suivi de très longue date par Luis Campos,
ouais,
conseiller sportif du Paris Saint-Germain, qui l'a approché il y a encore quelques temps. Bon, la facture commence à monter. Tu dis 120 millions d'euros pour la clause libératoire.
Oui, ça ne veut pas dire qu'il sera vendu à 120. Non, justement. C'est-à-dire qu'à 120, ils sont obligés de lâcher s'ils payent cash. C'est-à-dire si, par exemple, Jean Ferre dit que ça a été vendu à 126 parce que c'était des versements échelonnés. Mais normalement, quand tu lèves le montant de la clause libératoire, qui sont connus, puisque les clubs portugais, pour beaucoup, sont cotés en bourse et les comptes sont transparents, tu claques les 120, tu l'as. Ça ne veut pas dire forcément qu'il sera vendu à ce prix-là. Il peut être vendu pour moins.
C'est ça.
Voilà. Mais en revanche,
ce contrat jusqu'en 2026, hein, je l'ai pas précisé.
Ouais, il a prolongé il y a deux ans, fin 2020. Mais il y a beaucoup de monde dessus. Hein. Il avait même pas prolongé avec cette clause. Il avait une clause à 80 ou 88 à l'époque, que le Bayern le suivait déjà. On a parlé de lui à Newcastle. On parle de lui en Espagne aussi. Après, Campos, sa grande force, c'est le scouting, mais c'est surtout le scouting des jeunes joueurs. C'est-à-dire que lui, avant de bosser au PSG avec les millions qu'ils ont, il bossait dans des clubs où il n'y avait pas beaucoup d'argent et il recrutait les joueurs très jeunes. Et pour moi, la plus grosse trouvaille de Campos à jamais, ce sera Bernardo Silva, qui paye 15 millions d'euros, qui a pas un match avec l'équipe première du Benfica, qui joue latéral gauche sur des matchs de pré-saison avec Jorge Jesus au Benfica et qui est devenu le joueur qu'on connaît aujourd'hui.
Non, mais de toute façon, à partir du moment où tu as été recruté par Campos,
c'est un label, hein.
forcément, c'est que tu as des qualités. Après, Gonçalo Ramos, il reste quand même un joueur très surprenant parce que ce soit ce qu'il a fait hier, alors qu'il avait quasiment aucune expérience du très haut niveau ou avec la sélection qui est quand même un maillot lourd à porter, ce qu'il a fait avec le Benfica et la pression qu'il y a autour de lui, sachant que ouais, c'est un joueur qu'on connaît depuis quelques années au Portugal. On sait que c'est pas un vrai avant-centre. Il y a toujours quand même la question de savoir, OK, il a marqué en Youth League, mais est-ce que avec les adultes, un ancien milieu de terrain reconverti numéro 9, ça va le faire. Et force est de constater qu'encore une fois, il a surpris tout le monde hier avec un match exceptionnel.
Surtout,
il a
quand même raté aussi une grosse occasion. En plus, en 8e de finale de Coupe du Monde à 21 ans, avec la pression que ça implique.
Ouais, et surtout de remplacer Ronaldo.
De Cristiano,
ça fait plusieurs mois que Nicolas il me parle de ce Ramos que je ne connaissais
C'est vrai que c'est un joueur qui est vraiment en train d'exploser. Il n'est pas encore dans son prime, mais ça va venir.
Bah, y a un truc, c'est, on parle souvent de la formation à la française qui est indéniablement un modèle. Alors le Sporting pendant très longtemps était le label de formation au Portugal parce que Cristiano Ronaldo, Figo, parce que Nani, parce que João Moutinho ou parce que plein d'autres. Ouais. Mais là, ça fait déjà plusieurs années que le Benfica est en train de rattraper son retard et qui est devenu même d'ailleurs une source d'inspiration.
Porto aussi.
Oui, ils ont gagné la Youth League il y a pas très longtemps. Mais c'est vrai que le Benfica, ils ont le Seychelles, c'est vraiment devenu un exemple. Il y a beaucoup de clubs qui viennent voir comment ils travaillent au Portugal pour s'en inspirer.
Nico, merci. On se retrouve à partir de minuit pour la libre antenne ce soir.
Roland, il est chaud, bouillant pour venir.
Ah
ouais, il viendra. Tu viens vendredi, Roland?
Ouais.
Voilà, le rendez-vous est pris. Voilà, Kevin Diaz, Roland vendredi. Nico, on a hâte que tu rentres.
Avec passion, j'espère qu'on va prolonger l'expérience de la libre antenne.
Oui, mais alors plutôt alors.
Qu'on évoque depuis très longtemps, plutôt, t'as raison. L'affaire à 14h, 15h, c'est parfait, tu vois.
Ce serait magique.
Je pense que les chefs vont adorer le concept. Merci Nico, à très vite. À partir de minuit dans la libre antenne, dans un instant, on fait une pause. On parle d'Eden Hazard qui a annoncé la fin de sa carrière internationale à 31 ans seulement. On va faire le bilan parce que quand on annonce la fin de sa carrière internationale, c'est peut-être aussi qu'on annonce plus ou moins le début de la fin de sa carrière sportive plus globalement. On en parle avec coach Courbis, Kevin Diaz. Est-ce un gâchis ou était-ce un génie, Eden Hazard? Reste avec nous et venez participer au débat au 32-16 sur RMC dans l'After Intégral Coupe du Monde. A tout de suite sur RMC.
RMC After Foot Intégral Coupe du Monde.
Intégral Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Couche Courbis, avec Kevin Diaz, vous écoutez RMC l'After Intégral Coupe du Monde en direct de Doha au Qatar, 23h30 ici, 21h30 à Paris. Dans quelques minutes, ce débat, cette question, quelle est votre révélation dans ce mondial depuis le début de la Coupe du Monde? Kevin et Couche vont nous donner leurs réponses à partir de 23h45, 21h45 chez vous à Paris. Et également Eden Hazard, dans quelques secondes, sa carrière, laisse-t-elle un sentiment de gâchis ou de génie? Rapidement, quelques infos à vous donner concernant les Anglais. J'ai pas eu le temps de le faire tout à l'heure. Concernant notamment Declan Rice, milieu de terrain étincelant dans ce début de mondial, qui est malade à 3 jours du match contre l'équipe de France.
Ça serait pas une mauvaise nouvelle pour les Français, pour les Anglais, oui.
Exactement. Callum Wilson, également, comme lui, n'a pas participé à l'entraînement collectif de l'Angleterre aujourd'hui. Mystère également autour de Raheem Sterling. Rentré à Londres, vous le savez, il y a 4 jours après le cambriolage de sa maison. Il est resté sur place pour s'assurer que sa famille était en sécurité. Ce qui est étrange, c'est que ses enfants sont ici au Qatar. Certains, qui sont dans les milieux autorisés et informés, pensent peut-être qu'il aurait été vexé de ne pas avoir débuté le match contre le Sénégal. Bref, là aussi, affaire à suivre dans les prochaines heures. Et pour être très complet concernant l'Argentine, inquiétude à J-2 du quart contre les Pays-Bas. Rodrigo De Paul n'a pas participé à l'entraînement collectif, comme Papou Gomez. De Paul, qui est le moteur de la sélection, a travaillé avec le kiné ce mercredi. On évoque une possible contracture aux ischio. Inquiétude autour donc de la sélection argentine. Alors, Eden Hazard, qui a annoncé aujourd'hui sa retraite internationale, un post Instagram conclu par un « La relève est prête, vous me manquerez ». C'est pas encore une retraite sportive, mais ça y ressemble quand même, alors qu'il n'a que 31 ans. Que faut-il retenir de sa carrière, le génie ou le gâchis? Appelez-nous au 32-16. J'accueille d'abord Manu Jousse, journaliste à la RTBF. Bonsoir Manu.
Bonsoir les amis.
Bienvenue sur RMC. Salut Manu. Dis-nous d'abord comment on réagit en Belgique après l'annonce de cette retraite internationale d'Eden Hazard.
Ah bah écoutez, il y a quand même un grand sentiment de tristesse, parce que c'est quelqu'un au-delà du footballeur de génie, je réponds déjà en partie à votre question, qu'il a été avec le maillot des Diables Rouges. C'est quelqu'un, une personnalité très attachante que tout le monde adore, tant du point de vue des supporters que de notre corporation, nous les journalistes qui l'avons côtoyé depuis tant d'années. Donc déception de devoir tourner la page après 14 belles années sous le maillot de l'équipe nationale. En tout cas, il y a un mot que je n'utiliserai pas, c'est celui de surprise, parce que dans tout ce qu'il avait pu nous déclarer ces derniers temps, jusqu'il y a quelques jours encore, mais il laissait planer le doute. Et vous savez, Eden Hazard, c'est quelqu'un qui fonctionne essentiellement sur base d'une notion très importante pour lui, qui est celle de plaisir. Et il avait toujours dit que voilà, quand il n'y aurait plus vraiment ce plaisir à revêtir le maillot de la sélection, eh bien, il tournerait probablement vraiment la page. Donc c'est pas quelqu'un qui se fixe des objectifs, des défis en se disant si on est champion du monde j'arrête, ou au contraire si ça se passe mal je tourne la page. Non, c'est par rapport à son ressenti, et là il a senti que ce n'était plus possible pour lui de continuer.
Eden Hazard, génie au gâchis, le débat dans un instant sur RMC. Je rappelle quand même Manu, Kevin et coach, hein, la carrière d'Eden Hazard en sélection, c'est 126 sélections avec les Diables Rouges, 33 buts, 36 passes décisives, une demi-finale de Coupe du Monde en 2018, en club champion avec Lille en 2011, meilleur joueur de Ligue 1 en 2011-2012, 7 saisons à Chelsea, 2 fois champion d'Angleterre, 2 fois vainqueur de la C3, meilleur joueur de Première Ligue en 2015, et puis le Real depuis 4 ans, le néant ou presque. Alors, coach, je commence avec toi, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu réponds à cette question? La carrière d'Eden Hazard, qu'est-ce qu'on retient, le génie ou le gâchis?
Les qualités d'Eden Hazard, là, je rejoins ce que je viens d'entendre, dans le sens que c'est un joueur talentueux. Quand on pense à Hazard, on pense à ses accélérations, à ses coups de génie, mais là, tu me poses la question sur sa carrière. Sa carrière, pour moi, et notamment ces dernières années, et ce qui se passe à l'intersaison quand il signe au Real, c'est tout simplement un gâchis. Et si j'ai à résumer, pour moi, ma vision sur Hazard, ben je peux me tromper, mais une de mes phrases préférées, c'est que je peux aussi ne pas me tromper, c'est que je m'imagine un joueur talentueux, et je dirais quand même un dommage gâchis. Je vois un joueur talentueux mais feignant dans l'ensemble. Là, arrêté à 31 ans, ben ça ressemble un petit peu à ces 3-4 dernières saisons. Quand tu débarques au Real Madrid, qui vient de faire des efforts pour remplacer Ronaldo, et que tu es choisi comme celui qui va remplacer Ronaldo, et que tu débarques avec 8 kilos de trop, on n'est plus dans les erreurs. Des erreurs, on en fait tous. On est dans la faute professionnelle inadmissible. Donc, et que derrière ça, à cause de vouloir réparer ta connerie d'avoir pris 8 kilos, tu fais des efforts et tout, et tu te blesses, et tu rechutes et tout. Mais c'est tout simplement anormal. Il fait partie des erreurs du grand club qu'est le Real Madrid. Parce que le Real Madrid, contrairement à ce que je peux entendre, que ce soit un grand club, que ce soit peut-être l'un des plus grands clubs, voire même le plus grand club, des conneries, on en fait. Hazard, Bale, Jovic, donc
Bale, ça va quand
même. Bale, il a quand même fait.
Bale, avant d'être une connerie, ça a été quand même une réussite.
Bon, allez, une demi-réussite et une demi-connerie. Mais donc, Hazard fait partie d'un gros échec du côté du Real. Alors que sa carrière, après, on se rappelle de ce qui a été fait à Chelsea, bravo, de ce qui a été fait à Lille, bravo. Arrêté à 31 ans,
il arrive à 27 ans, coach, hein, au Real Madrid, ouais, hein, relativement tôt.
Quand tu as la chance d'avoir 31 ans et de pouvoir continuer à jouer pour un club et pour une équipe nationale, eh ben cette décision, elle ressemble exactement à ce que je m'imagine de ce jour.
Pour l'instant, il est toujours sous contrat avec le Real Madrid, hein, jusqu'en 2024 d'ailleurs. Kevin, après, j'ai une question à poser à Manu Jousse.
Non, il y a deux choses dans ce débat. Déjà, répondre à la question qui est posée, c'est-à-dire retraite internationale pour Hazard, retiendrez-vous le génie ou l'immense gâchis? Pour moi, je retiendrai l'immense gâchis parce qu'il symbolise très bien cette génération dorée belge qui avait énormément de talent mais qui a été stoppée par une tête de Samuel Umtiti à la Coupe du Monde 2018 notamment. Et surtout, voilà, moi, à partir du moment où j'ai entendu cette interview d'Eden Hazard, même si on avait entendu pas mal de choses lorsqu'il était sur sa fin de période à Chelsea et qui dit « Ah, moi, les abdos de Cristiano Ronaldo, non, moi le football, c'est que le plaisir. Moi, le football, c'est vraiment prendre du plaisir avec mes potes. »
Mais pourquoi pas, ça lui appartient, son approche.
Il n'a pas réalisé que c'était son métier. Ouais.
Voilà, n'empêche que ça t'appartient, mais force est de constater que finalement cette mentalité, ça t'a mené à ta perte et tu n'as pas été au bout de tes possibilités. Ça lui appartient, il sera sûrement content de sa carrière, bravo à lui, mais je trouve ça quand même dommage et un gâchis, Manu, au vu des qualités qu'il avait. Et concernant la sélection, par contre, l'arrêter, je trouve ça, c'est une forme d'honnêteté, parce que arrêter la sélection maintenant, c'est normal. De toute façon, il n'a tout simplement plus le niveau pour le très haut niveau, et ce que veulent les Belges, ça reste des joueurs qui sont capable de jouer au très haut niveau sur 10 mois ou 11 mois.
Manu Jousse est avec nous, journaliste à la RTBF. T'as écouté attentivement les propos de Kevin et de coach. Tu suis les Diables Rouges depuis 2008, ce début de Eden Hazard en sélection. Raconte-nous un peu, quelle était son ambition quand il arrive au Real Madrid? Parce qu'on se pose la question, et coach, il a raison. Le Real sort 100 millions d'euros pour un joueur phare avec un énorme salaire.
Pour un an de contrat.
Eden Hazard était-il vraiment motivé? Est-ce qu'à 27 ans, il s'est pas dit, c'est bon, j'ai fait ma carrière, on verra ce qui se passe maintenant?
Non, à ce moment-là, pas du tout. Et là, je vous rejoins totalement. Il faut faire la distinction entre le Eden Hazard sous le maillot de l'équipe nationale belge et le Eden Hazard en club, où effectivement, il est arrivé normalement au meilleur âge pour un footballeur, l'âge de la plénitude, 27, 28 ans au Real Madrid. Il suivait vraiment une ascension dans sa carrière après Chelsea. Il arrivait dans ce club qu'on considère comme peut-être le plus grand au monde, avec cette énorme erreur, effectivement, d'être arrivé en surpoids et d'avoir essayé après de rattraper le coup et de courir derrière le temps perdu, s'occasionnant des blessures. Il avait les ambitions là de confirmer tout ce qu'on avait vu de lui à Chelsea et évidemment à la Coupe du Monde 2018 où le trophée de meilleur joueur était revenu à Modric, mais tout le monde était bien d'accord pour dire que c'est que c'est Hazard qui le méritait. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas arrivé dans les meilleures
conditions? Toi qui le connais, Emmanuel, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? C'est un homme qui a toujours dit, j'ai pas une ambition débordante, je ne rêve pas d'être ballon d'or aussi.
Un sympathique feignant.
Voilà, c'est ça.
Ouais, mais il y a toujours eu, effectivement, il n'a jamais pensé chiffres, il s'est jamais fixé des objectifs, je veux marquer autant sur une saison, je veux être ballon d'or, ceci, cela. Non, c'est je veux donner du plaisir et en prendre moi-même. C'est vraiment, ce sont ces deux mots-clés. Par contre, si on parle de la façon dont il s'entretient, son poids de forme, etc., il y a eu le hasard de son arrivée au Real et le hasard de son après-blessure. Vous le voyez ici en début de saison, et pas mal de photos avaient circulé d'ailleurs, il était affûté comme jamais.
Oui, mais c'était trop tard, Manu.
Ah, mais c'était trop tard, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je me demande
Le corps, c'est une machine quand même très très bien réglée. Et tous tes excès, t'inquiète pas que c'est marqué dans ton organisme, c'est marqué dans ton ADN, et t'as beaucoup de mal ensuite. Surtout pour un joueur comme lui, qui attention, a commencé le football de haut niveau très jeune à Lille, et donc forcément, ton corps il est déjà un peu abîmé.
Souvent, on entend des conneries, et souvent on en dit nous aussi, mais on peut constater que quand j'entends sur un joueur qui a négligé alors qu'il vient de signer au Real son poids de forme au point d'arriver avec 7 à 8 kilos de trop, et que derrière ça j'entends oui mais là cette blessure c'est pas de chance parce que il s'est tordu la cheville, parce qu'il a pris un coup, mais tout est lié. Quand par exemple tu n'as pas la vélocité qu'il faut, tu n'as pas ton poids de forme, tu cours après ton poids de forme en faisant connerie sur connerie et en donnant à ton corps des obligations qui sont tout simplement impossible, et que tu es blessé par rapport à des coups, mais tu es blessé par rapport à des coups aussi que tu aurais pu ou que tu aurais dû éviter.
Bien sûr.
Donc ça quand j'entends qu'après certaines blessures c'est pas de chance, non, c'est tout est lié pour moi.
Manu, avant de te libérer, une question simple, qu'est-ce que tu retiens, quelle image tu retiens d'Eden Hazard?
D'image sur le terrain, je vais dire ce que je retiens, c'est un but extraordinaire contre la Hongrie lors de l'Euro 2016, celui où on a été sorti, vous vous souvenez, à Lille, hein, contre le Pays de Galles, et évidemment l'ensemble de sa Coupe du Monde 2018 qui a été absolument extraordinaire. Mais à côté du footballeur, je retiens l'homme, vraiment une disponibilité à toute épreuve, le sens de l'humour, le détachement. Enfin, pour nous journalistes,
c'est
le client idéal. J'aime même pas utiliser ce mot-là parce que c'est pas une posture de sa part.
Sympathique et adorable, voilà. Ça c'est sûr.
Mais il y a un mot, t'as dit détachement. C'était ça finalement le problème depuis 4-5 ans, c'est que cet homme-là, et je l'ai rencontré en zone interview après un Belgique-Canada, détaché, même quand on lui demande, on a retrouvé un peu Eden Hazard, il fait un petit peu peut-être, et puis il s'en va en se marrant. C'est aussi sa personnalité, Eden Hazard.
Par contre, je voudrais quand même souligner quelque chose. On en saura évidemment un peu plus quand les langues vont se délier dans les prochaines semaines, mais la façon dont ça s'est terminé, vous savez, ici Martinez, le but était de donner de plus en plus de temps de jeu à Hazard. Il l'a fait contre le Canada et le Maroc. Bizarrement, il ne l'a pas fait pour entamer le match contre la Croatie. Il a juste joué 10 minutes à la fin, là, ce qui ne servait strictement à rien. bien. Mais je pense vraiment, il y a eu beaucoup de tensions dans le vestiaire belge et certains, des Jérémy Doku par exemple, ou des Trossard, ont commencé à très mal prendre le fait que Hazard bénéficie comme ça d'une sorte de totem d'immunité, alors que d'autres auraient plus mérité d'être à sa place. Donc je pense que ça s'est assez douloureusement fini, malheureusement, du point de vue des relations entre lui et certains autres joueurs.
En tout cas, j'ai vu le poste de Kevin De Bruyne, ça a l'air d'aller entre lui et De Bruyne, parce que ça faisait plaisir à voir.
Ah, entre deux, il n'y a pas de problème. C'est juste dommage que De Bruyne ait oublié d'être à son niveau à cette Coupe du Monde, parce qu'on attendait beaucoup de lui. Et la grosse déception pour moi ici, c'est pas Hazard, c'est De Bruyne.
C'est Kevin De Bruyne. Merci Manu Jousse, journaliste à la TBF. Tu reviens quand tu veux.
Avec plaisir.
Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. On revient dans un instant. Cette question, quel est votre joueur révélation du mondial? Appelez-nous 32-16 pour participer avec Kevin et Coach Courbis. Vous écoutez l'After intégral Coupe du Monde, 21h44 à Paris, 23h44 à Doha au Qatar. À tout de suite.
RMC After Foot intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamain.
Avec Coach Courbis, avec Kevin Diaz, l'After intégrale Coupe du Monde sur RMC. Dans moins de 12 minutes désormais, l'After la suite avec Gilbert Bribois, Daniel Riolo et Stéphane Guy. Puis la libre antenne à partir de minuit comme tous les soirs pendant cette Coupe du Monde. Coach Courbis, Kevin Diaz, je vous ai sollicité. On vous a sollicité avec Jimmy Brown. Cette question extrêmement simple. Quel est votre joueur révélation dans cette Coupe du Monde et avant les quarts de finale? Appelez-nous au 32-16 dans un instant. Nous serons avec un Afterien. Kevin, commençons par toi, pour une fois.
Bah écoute, j'aurais préféré que tu commences par le coach parce qu'en fait on avait choisi le même joueur, donc j'ai laissé le joueur dont je parlais tout à l'heure.
Ouais, c'est la différence d'âge qui a fait.
Je vais quand même débuter si tu veux bien, mais bon du coup je suis parti quand même sur forcément. Comme Gilbert l'a rappelé, j'étais obligé de mettre un Néerlandais. Ils sont quand même en quart de finale. C'est un joueur que le coach découvre aussi petit à petit. C'est vrai que le grand public en France le connaît pas forcément, même s'il avait joué notamment contre l'AS Monaco l'an dernier en Ligue des Champions. Mais Cody Gakpo, c'est quand même, alors je vais le dire à la française, mais c'est quand même un joueur qui est vraiment excellent, très intéressant, capitaine du PSV Eindhoven, excellent passeur avec le PSV, excellent buteur. Il a vraiment sorti un gros début de mondial et il fait partie de cette jeune génération qui a emmené qui a permis à Louis van Gaal d'atteindre quand même les quarts de finale qui était l'objectif de la KNVB, la Fédération néerlandaise. Mais je mettrai quand même entre parenthèses, même si il a été éliminé en phase de groupe quand même, Jamal Musiala du FC Bayern, parce que franchement exceptionnel ce qu'il a fait en phase de groupe, le meilleur de cette compétition.
On n'est pas dans une révélation, Musiala, ça fait, on en parle tous les lundis soirs, tous les week-ends sur RMC.
Ouais, mais quand même pour le grand public, ça reste quand même une révélation.
C'est vrai. Gakpo, ou Rakpo, comme disent les grands spécialistes du foot néerlandais et de la langue batave, c'est 3 buts dans ce mondial pour l'instant, 6 en 13 sélections. C'est pas un gamin, c'est un jeune, il a 23 ans.
Capitaine du PSV Eindhoven. Non, c'est un joueur qui ça fait 3 ans qu'il est sur les tablettes des plus grands clubs européens, mais le souci c'est qu'à chaque année il est très bon, mais le PSV Eindhoven en veut beaucoup d'argent à l'image de ce que fait l'Ajax pour vendre ses meilleurs talents. Le PSV a décidé de ne pas brader ses joueurs et donc c'est difficile parce que PSV, là on en demande une grosse somme du côté du Philips Stadion.
Coach, quelle est ta révélation dans ce mondial?
Mais écoute, un joueur marocain, avant de donner le nom, je fais rapide pour féliciter Walid Regragui, que j'ai eu le plaisir d'avoir comme joueur à Ajaccio, qui est en plus que compétent, qui est en plus adorable. Et je signalerai que Vaïd se fait virer au mois d'août et Walid prend l'équipe quand même début septembre, 2 mois et demi plus ou moins avant la préparation de l'effectif. Donc cet exploit qui fait de lui le seul sélectionneur africain qui va qui est allé en quart, sincèrement je suis obligé de lui filer un grand coup de chapeau. Et j'ai choisi un de ses joueurs, un joueur que j'avais pas vu aussi bon que ça, et là je le regardais attentivement, c'est Sofiane Amrabat, avec ce numéro 4 dans le dos, qui joue au milieu défensif et qui est joueur de la Fiorentina, qui a une équipe sympa, la Fiorentina. Mais ce joueur-là, je l'ai vu pour le moment tout simplement énorme.
Justement, Almam est avec nous, supporter du Maroc, j'imagine. Salut Almam.
Salut.
Salut Alman.
Tu es d'accord avec coach, hein, je crois. Ta révélation, c'est Sam Rabat.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, moi, c'est ce que j'ai dit au standard. C'est le premier nom qui m'est venu en tête quand je vous ai écouté tout à l'heure. C'est Sofiane Amrabat, parce qu'on le connaît assez peu en Europe. Et en Italie, Johan Crochet a eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est un joueur qui a crevé l'écran. Tout d'abord à l'Hellas Vérone, où il a été élu en 2019-2020, je crois, 8e meilleur joueur de Serie A. Et avec la Fiorentina, il fait une super saison également. Et en équipe nationale, il ne jouait pas sous Hervé Renard. Il était déjà là à la Coupe du Monde 2018, mais il a très peu joué.
Il y avait son frère qui jouait titulaire.
Ouais, c'est Nordin Amrabat, ouais. Tout à fait. C'est ça, d'ailleurs, super fratrie. Les parents doivent être contents. Et il ne jouait pas avec Hervé Renard. Et c'est vraiment Vaïd qui en a fait un pion essentiel de la sélection marocaine. Et on parle souvent de la solidité défensive, cette fameuse ligne de 4 avec le Maroc. Mais on parle de Saïs, Aguerd, les deux latéraux, Mazraoui, Hakimi, Bounou. Mais je veux dire, sans Sofiane Amrabat, je pense qu'on aurait pris... je dis « on » parce que je suis d'origine marocaine, donc forcément c'est aussi pour ça que j'ai pensé à Amrabat. Mais je veux dire, sans Sofiane Amrabat, je sais pas si on aurait pris qu'un pion sur les quatre premiers matchs de Coupe du Monde.
Et pendant que tu es là, on n'a pas l'info précise. Les deux arrières centraux là, qu'on espère qu'ils soient pas blessés gravement et que ce soit des crampes.
Cuisse douloureuse, t'as raison.
On a des nouvelles?
Bah alors justement, j'ai essayé de chercher l'info aujourd'hui et j'ai pas trouvé grand chose. Saïd, il a quand même fini sur une jambe et c'est un peu inquiétant. Alors si Aguerd, j'ai lu tout à l'heure sur un média marocain que visiblement c'est moins grave que prévu, mais je veux dire le match il est quand même samedi, c'est dans 4 jours, donc même pour une blessure qui serait peu grave. Est-ce qu'il serait rétabli pour samedi? J'en sais rien. Mais après,
ça va être compliqué parce qu'ils sont quand même sortis dans un match qui était difficile, etc. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient vraiment pas continuer. Donc, ouais. Quoi qu'il arrive, ils ne seront pas à 100%. Et pour revenir sur Sofiane Amrabat, je disais tout à l'heure en souriant qu'il est aussi un petit peu hollandais. Bon, il est quand même né à Eisen, formé au FC Utrecht, ouais. Passé par Feyenoord. Je te parlais de son frère parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup connu, que je trouvais vraiment excellent, Nordin Amrabat. Super ailier, un joueur très puissant qui ressemble d'ailleurs physiquement à son frère, mais vraiment c'est un très très beau joueur. On voit qu'il est bien formé, il a du caractère, c'est un joueur de l'ombre et je pense qu'il va finir dès cet hiver dans un très grand club européen.
Dans quel état? Ouais. Je précise également qu'Amrabat, il joue sous anti-inflammatoire. Hein. Il souffre de douleur au dos. Ounahi aussi, hein. Lui, c'est la cheville qui est touchée. Mazraoui, c'est la hanche qui est touchée. Voilà les gars, attention parce que ça va venir vite ce quart de finale. C'est déjà samedi à 16h face au Portugal.
Mais oui, et puis le Portugal qui n'a pas fait autant d'efforts que ce qu'a pu faire le Maroc.
Merci Almam. Tu peux nous rappeler après ce match ou avant ce match qui sera évidemment sur RMC, Maroc-Portugal, quart de finale samedi à 16h. Tiens, un mot également, une petite information. Nuno Mendes et Danilo, vous savez, un forfait pour la fin de ce mondial, sont rentrés à Paris. Ils vont retrouver le camp des loges donc dans les prochaines heures. J'aurais rajouté Enzo Fernandez également, petite révélation, l'Argentin, attaquant du Benfica qui a marqué.
Il y a Julian Alvarez aussi.
Il y a Julian Alvarez, mais ça, on le connaît aussi déjà, Alvarez. On le voit le week-end, un petit peu, quand même.
On le voit un peu moins que Enzo Fernandez, pour le coup.
Pour le coup. Kevin, merci.
Merci
coach,
à toi.
Merci. Je me suis régalé ces 2 heures avec vous. Je vois que Daniel Riolo vous a rejoint dans le studio déjà. Il sera accompagné de Stéphane Guy et donc de Gilbert Bribois qui va prendre ma place ici dans le studio.
Nous aussi, RMC. On fait des changements et des changements qui ne baissent pas le niveau. Hein, donc, Daniel.
On va savoir d'ici 2 heures. L'after se poursuit sur RMC avec Gilbert, Daniel et Stéphane et puis jusqu'à 1h du matin avec la libre antenne. Vous écoutez RMC, l'after intégral Coupe du Monde. Bonne soirée.
RMC, After Foot.
Intégral Coupe du Monde.